J'ai une fois vu que les Chinois actuellement ne sont plus aussi doués en calligraphie que ce que tu nous racontes. J'ai vu que sur leur iPhone, quand ils écrivent en pinyin. C'est-à-dire que spontanément, ils écrivent, enfin, tu vas me confirmer, spontanément, ils écrivent avec une écriture alphabétique, paradoxalement, qui va être traduit effectivement en caractère chinois.
Oui, quand on travaille sur l'ordinateur, on est obligé de
C'est
taper sur
ça.
le clavier avec les lettres, les 26 lettres. Oui.
Mais c'est étonnant qu'on soit obligé de passer par une écriture alphabétique, puisque ça a été la grande problématique, ça, hein. Quand même, cette écriture chinoise qui n'est pas du tout une écriture alphabétique, voilà qu'on voit par cet instrument, par l'ordinateur ou l'iPhone, quand ils veulent écrire, au fond, ils sont obligés de passer par là, hein, par le pinyin, et beaucoup, semble-t-il, ne savent peut-être plus exactement écrire, calligraphier correctement le chinois.
Je pense qu'il y a chinois et chinois.
Oui.
Ça peut paraître un peu paradoxal, c'est que les Chinois qui sont lancés dans le business, qui se sont laissés emporter par la mondialisation, la modernisation, effectivement, ce qui les intéresse, c'est plus parler l'anglais et écrire très bien en anglais. Voilà, et maîtriser les outils informatiques, voilà. Mais au fond, très sincèrement, je pense qu'il y a une négligence quelque part sur tout ce qui est traditionnel. Par exemple, avoir une belle écriture, ça fait plus partie des exigences scolaires.
Vraiment, tu dirais ça.
Voilà. Mais en même temps, parallèlement, vous avez encore des enfants qui sont obligés de suivre pendant les vacances et pendant le week-end, les cours de calligraphie. C'est qu'il y a quand même une partie de la population qui s'accroche, enfin, des gens comme moi, qui s'accrochent un peu à nos traditions, à notre civilisation et continuer à transmettre. Ce n'est pas totalement en voie de disparition. Je ne pense pas. D'ailleurs, on continue à citer les phrases de Confucius, de Lao Tzu, de Meng Zi, et sincèrement, je ne pense pas que ce soit très, très inquiétant.
Bon, bah tu nous rassures là, c'est bien. Écoute, avant peut-être que d'autres te posent des questions, j'aimerais qu'on vienne peut-être à un dernier point qu'on avait abordé la fois dernière, puisque effectivement, si maman était là, comme j'ai dit, effectivement, c'est évident que maman est encore là dans les phrases que tu nous as racontées. Elle est dans ton corps, elle est dans tes pensées. Cette mère qui dit tu n'es qu'une fille, etc. Mais justement, ce qui m'a frappé, c'est la présence fréquente. Alors, est-ce que pour un Français, peut-être ce n'est pas évident, c'est un terme que tu l'as employé la fois dernière, un goût amer. La mère, hein, je t'ai fait entendre dans l'équivoque, hein, on voit souvent la mère qui apparaît. Hein. Et donc, la fille et la mère, si je puis dire, on ne sait pas exactement comment l'écrire. Hein. La fille et la mère. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'amertume ou la mère pour un Chinois, pour une Chinoise comme toi? Au-delà, effectivement, de la présence de la mère, sur laquelle on reviendra avec ta fille et toi.
Ah, est-ce que tu peux reformuler ta question?
Oui, je veux dire, déjà, l'équivoque m'a paru étonnante, si tu veux. La mère, hein, la mère, elle apostrophe ou la mère, on entend, et je pense que le chinois, de ce point de vue-là, est une langue qui fonctionne sur l'équivoque comme le japonais d'une manière très très forte, d'où la dimension poétique, effectivement, de cette langue, hein. Mais l'amertume elle-même, parce que je me souviens d'un japonais qui m'avait offert précisément un petit dessin, et il y avait une série de goûts dont la mère. Hein. Je ne sais pas si le français aurait ces nuances de goût. Est-ce que ça te parle, toi, la mère, l'amertume?
Oui, ça me parle. D'ailleurs, en ce moment, toi, tu dis l'amertume. Moi, je Je dis le goût amer.
Voilà, c'est ça que tu m'as dit, le goût amer. L'amer. Hein, bon.
Oui, ça me parle beaucoup. J'ai pas mal parlé de mon père, effectivement. Enfin, indirectement, j'ai parlé aussi de ma mère. Je crois que effectivement, il y a quelque chose de amer dans mon écriture. Dans mon écriture, je suis une enfant qui n'a pas été élevée par sa mère. C'est pas tout à fait un hasard. Le titre de ce livre est venu dans ma tête si maman était là. Mais en fait, en réalité, la mère, elle est là. Elle est tout le temps là. Avec cette phrase, finalement, tu n'es qu'une fille. Je pense qu'elle est très, très, très présente. Elle m'accompagne tout au long de... J'avoue que je suis pas totalement à l'aise pour... pas encore, mais un jour, je vais écrire un livre qui... Parce que je connais aucun autre moyen pour faire le tri par rapport à moi-même, pénétrer dans mon fort intérieur, à part l'écriture. Vous allez me dire qu'il y a la psychanalyse, mais la parole dans la psychanalyse, je la place plus du côté de l'écriture. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Un jour, il va falloir que je trouve la force d'écrire quelque chose par rapport à ce sujet de la mère. Pourquoi en français, le mot amer est directement, et je dirais directement lié à ce mot la mère ou ma mère. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je sens où tu veux m'emmener. Mais
moi je ne sais pas où je vais t'emmener. Hein. Mais déjà le mot.
J'ai rien d'autre à partager avec vous. Je le reconnais.
C'est magnifique. La mer, le goût amer ou la mer, hein, dans l'équivoque. Ben, ça amène peut-être sur le dernier point, hein, qui m'a retenu, mais qui nous avait retenu. Tu te rappelles tout de suite parce que. Tu m'avais envoyé, au moment où ton livre est édité, tu m'avais envoyé un enregistrement. Et dans cet enregistrement, eh bien, c'est ta fille qui lit ton texte. La fille lit le texte de sa mère qui, comme fille, parle de sa mère ou de l'amertume de sa mère. Je crois que ça serait intéressant que, je crois qu'on l'avait dit, que tu nous fasses juste entendre, parce que il m'est arrivé quand je téléphonais, j'avais Anita au téléphone et je savais pas si c'était toi ou Anita. Maintenant, je me suis habitué un peu plus à faire la différence, mais Anita m'a dit oui, mais on nous confond souvent. Bon, alors bien sûr.
Fusion, il y a forcément quelque chose de fusionnel. Enfin, il y a une fusion peut-être. Qui arrive souvent entre mère et fille. Est-ce que c'est par là que tu veux aller ?
Non. Ah, mais écoute, je ne sais pas où je vais aller, mais déjà en ayant entendu parfois, je confondais. Et là où il y a quelque chose d'impressionnant, c'est qu'effectivement, ton texte à toi est lu par ta fille. Hein, est-ce que tu peux nous faire entendre la voix de ta fille, la voix de ta fille sonorisant, mais donnant sa voix, VOIX, effectivement, avant qu'on revienne à la voix de ta fille aussi, VOIE. Tu peux
mettre l'enregistrement tout de suite ou...
Oui, tu peux entendre un petit morceau au moins.
Juste un petit bout. Hein.
Voilà.
Si vous entendez bien.
C'est effacé. Une main géante a gommé le quartier de mon enfance. Les ruelles, les saules pleureurs, les poteaux d'électricité. Les regards curieux, plus de vieillards assis sur leurs tabourets, plus d'enfants qui jouent en criant, plus de marchands ambulants, plus de réparateurs de vélos. Deux avenues de quatre voies se croisent, hébergent une armée de voitures luxueuses qui affichent leur mépris pour les rares cyclistes et les quelques piétons comme moi. Les immeubles neufs dominent de toute leur hauteur ce qu'il reste des vieilles maisons à moitié démolies, cachées derrière les murs gris et rouges. Quelques chantiers en cours promettent au quartier une allure encore plus surprenante. Je ne retrouverai plus jamais les traces de mon ancienne vie. Personne ne pourrait me croire si je disais « C'est ici que mes parents se sont aimés. C'est ici que je suis venue au monde, que j'ai appris à marcher, à parler, à lire et à écrire. C'est ici que j'ai rencontré Li Bai, Lao She, Maupassant, Hemingway, Austin et Duras. »
Voilà, je m'arrête là.
Tout s'est effacé. Je longe le mur d'une construction géante, à gauche quartier de mon enfant, passer de l'eau des ruelles, les saules pleureurs.
Et la fille va recouvrir les mots de sa mère, c'est pas possible.
Avec fierté, plus de vieillards assis sur leur tabouret.
Anita, arrête de parler à la place de ta mère, c'est pas possible.
Plus de réparateurs de vélos.
Oui, c'est bien que tu apparaisses aussi à côté.
Héberge une armée de voitures.
Et oui, c'est magnifique que vous apparaissiez toutes les deux comme ça, encore mieux.
Quelques piétons comme moi. Les immeubles neufs, toute leur hauteur.
Oui, donc Tienne, non seulement ta fille a lu ton texte, mais plus que ça, à la fin de ton livre, je vois qu'elle a corrigé ton texte aussi. Elle a corrigé le texte écrit, hein. Et plus que ça, comme tu me le disais, autant toi tu as été dans une école, enfin l'université prestigieuse de Pékin, mais ta fille aussi a choisi cette voie aussi d'excellence en rentrant à Ulm, hein, effectivement. Hein. Alors ça, c'est la même voie, si je puis dire, que la mère, peut-être, mais tu m'as fait entendre cette chose étonnante, enfin tu m'as fait entendre, je l'ai appris aussi, c'est qu'en fin de compte, aussi, elle a fait un petit pas de côté. Et tu peux nous raconter, au fond, ce qu'elle a fait de terrible, cette fille, ne faisant pas totalement comme toi ou faisant comme sa mère un moment qui ben fait pas tout à fait comme le veut sa mère.
Ah non, mais sa mère, tu parles de la mère de ma fille.
Oui, c'est bien toi la mère de ta fille. Oui, bon, ça va alors. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait de terrible? Comme toi, tu as fait quelque chose de terrible par rapport à ta mère.
C'est entièrement sa choix, son choix. J'ai pas du tout fait la même erreur que ma mère. C'était facile dans ma relation avec ma fille, c'est de faire tout ce que ma mère n'a pas fait pour moi et faire tout le contraire de ce qu'elle a essayé de faire. Voilà. C'est pour rigoler. Dans cette relation, je veux dire que ça va mettre Anita très, très mal à l'aise si je vais plus loin, mais je pense que le fait que je lui ai demandé de lire cet extrait, c'est un exercice vraiment intéressant parce que quand je l'écoute, je sais que c'est de moi, mais je ne le reconnais pas. J'ai l'impression que sa voix fait vivre mon histoire d'une autre façon, c'est devenu son histoire. Et c'est vrai que dans notre relation, il y a une volonté de ma part de transmettre quelque chose de chinois à ma fille. Ça, je ne cache pas, je ne peux pas le nier. Hein. Le fait qu'elle a réussi le concours pour ENS Ulm, ça c'est, elle a choisi d'étudier les sciences.
Et voilà, c'est ça le point. C'est ça, curieusement, elle étudie les sciences.
Mais c'est pas, elle n'a pas fait pour embêter sa mère. Parce que moi, je suis totalement pour aussi, donc il n'y a pas d'histoire à ce niveau-là. Voilà.
Mais toi, tu es d'accord, effectivement. Hein? Ce qui n'aurait pas été le cas de ta mère, si je comprends bien. Hein?
Oui, c'est vrai que Anita n'a pas eu à ruser. Voilà.
Oui, voilà. Voilà, ça c'est magnifique.
Est-ce que je peux dire encore une dernière chose? Après, peut-être les gens ont prévu d'autres choses. J'ai juste envie de partager une phrase. Ce que je dis, c'est que valable pour moi. Je l'impose à personne. Il me semble que dans mon histoire, par rapport à l'écriture, par rapport à la langue française, il y a quelque chose qui se met petit à petit en place. C'est au ternaire du réel, symbolique et imaginaire, que vous comprenez très bien de quoi je veux parler, ou bien au binaire du yin et yang, hein, parce que chez nous on parle de yin et de yang, moi j'ajouterais un élément indispensable pour moi, hein, mais cet élément, je le nomme tout simplement le souffle. Le souffle, car à mes yeux, c'est le souffle qui maintient l'équilibre du vivant. C'est mon souffle que j'essaye de préserver à travers l'écriture. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Je ne peux pas imaginer une fin justement plus magnifique que ce souffle. Hein.
Merci beaucoup, Tienne. Merci beaucoup, Jacques Ruff. Il nous reste quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est peut-être ceux qui ont envie de prendre parole, d'ouvrir votre micro si vous avez envie d'intervenir. On a quelques minutes. Vous m'entendez ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ?
On t'entend.
Ah, d'accord, voilà. Donc, voilà, ce que je proposais, c'est, il nous reste quelques minutes, donc voilà, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, poser une question, il suffit d'ouvrir votre micro. Bon, je vous donne 2 minutes, et puis en attendant, ben, moi je vais, Tienne, je voudrais te simplement rapporter un élément de la conversation qu'on avait eue au préalable, et où lorsque tu nous avais dit que quand tu avais été quand tu t'étais entendu lire par ta fille, il y avait comme eu quelque chose d'un peu étranger qui surgissait. Tu te souviens de ça ?
Tout à fait, oui. Oui, oui. C'est étrange. Et parfois, quand même quand je t'ai écouté tout à l'heure, tu as lu, Jacques aussi a lu, chaque fois, c'est vrai que il y a une émotion, évidemment, et puis c'est un peu... comment dirais-je, tout ce que j'ai pu mettre en place à travers mes personnages, une fois c'est écrit, c'est publié, ça ne m'appartient plus. Voilà, ça appartient au lecteur et chacun peut continuer à faire vivre ces personnages. Voilà.
On avait commencé à parler de la publication aussi, et du fait du dépôt, du coup... à l'extérieur, dans le public, de cet objet.
Publier, tu sais, quand tout à l'heure j'ai dit parler, c'est tracer dans le sable. Écrire, c'est graver sur la pierre.
Voilà.
Et publier, c'est jeter de l'eau par terre, en fait. C'est parce que ça vient d'un proverbe chinois, on dit on ne ramasse jamais l'eau jetée par terre. Une fois c'est publié, c'est lu, c'est entendu, c'est interprété. C'est pas forcément toujours compris, mais au moins c'est lu, voilà. Il y a une sensation qu'on a réussi à faire passer. Pour moi, c'est ça, publier.
Mais tu te rappelles, Tienne, c'était justement parce que je devais intervenir ailleurs là, et c'était le mot de poubellication qui venait. Hein. Bon, bien sûr, c'est publié, mais là, tu nous le fais entendre ce jet d'eau, hein, qu'on jette d'une certaine manière. C'est effectivement c'est quelque chose d'impermanent, quelque chose qui part, mais qui part sur la pierre en même temps. Hein. C'est aussi. Si tu veux reprendre ces trois éléments, hein, l'écrit, la parole, et effectivement quelque chose, un genre de rejet en même temps.
L'eau jetée dans la terre, il n'y a que le soleil qui peut la ramasser, qui la transforme en vapeur. C'est en quelque sorte lui donner une nouvelle forme de vie. Voilà. C'est ce que je ressens quand j'écris en français. J'habite dans la langue française et je suis habitée par la langue française. C'est dans cette langue, j'ai l'impression que je suis un peu sur une frontière, sur une ligne de frontière. C'est-à-dire on est entre deux mondes. En même temps, c'est l'espace de création d'une nouvelle forme de pensée, très sincèrement.
Oui, je ne sais pas si c'est possible de poser une question maintenant.
Mais oui, bien sûr.
Alors oui, j'étais très frappé, Tienne, par ce que tu disais que la langue française a représenté pour toi, aussi autour de Maupassant, effectivement, on entend quelque chose du passage. Et donc, au fond, ton passage à la langue française a été aussi une façon de s'extraire de quelque chose de totalitaire. Et donc, je voulais te demander, donc, apparemment, c'est toujours, enfin, c'est une constante pour toi, à la fois au départ de passer d'une langue à une autre, et puis à la fin, ça résonnait avec ton texte qui passe à ta fille, à la voix de ta fille. Il y a quelque chose qui tourne chez toi beaucoup autour du faire passer. J'étais très sensible à ça. Avec Suzanne, on en parlait en aparté quand le micro était coupé. Et voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose ? Et j'étais très sensible au fait que, par exemple, tu disais qu'il y avait des choses, tu disais ça par rapport au réel, dont tu étais plus proche dans le français, mais il y a quelque chose qui t'apportait une liberté nouvelle dans le passage en français. Et ça me fait penser, ça a résonné pour moi avec le poète qui a intitulé un de ses recueils « Sans sortir, sans sortir ». Et il l'écrit les deux fois différemment « sans sortir », « sans », S-A-N-S, « sortir ». Il y a quelque chose comme ça, je trouve, dans ton travail, c'est-à-dire que tu réussis à passer tout en respectant les contraintes, d'une certaine façon.
Oui, le passage, oui. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est le passage entre le moi chinois et le moi français, entre guillemets. Oui, je pense que cette partie de travail, grâce à l'écriture, je pense que c'est en cours de réalisation. Il y a cette partie-là. L'autre partie, c'est de justement le moi français se sent responsable de la, on va dire, la construction personnelle de ma progéniture, au moins jusqu'à un certain âge. Maintenant, c'est bon, j'estime que le boulot est fait. dans cette période de passage que j'appelle la transmission, en fait, c'est que je me suis accrochée de toutes mes forces à mon moi chinois pour le transmettre à ma fille. Alors, à savoir pourquoi, ça peut-être, ça mérite d'une longue discussion l'année prochaine.
Oui, j'ai été frappée par le fait que tu dis qu'effectivement, les caractères de chinois, on ne les efface pas, hein, ça ne se gomme pas. Et puis, ce que j'ai entendu dans ce que disait ta fille, c'est que en fait, tu écris sur l'effacement.
Oui.
Hein? Tout le texte qu'on a entendu, c'est autour de s'est effacé.
Oui.
Hein? Et du coup, je me demandais si effectivement, ce que t'avais renvoyé Véronique sur le fait que peut-être la langue française te permettait d'effacer quelque chose autour de la langue chinoise, est-ce qu'on pourrait le valider comme c'est une interprétation, mais est-ce que tu pourrais en dire quelque chose là?
Oui, à la fois il y a la volonté d'effacer un passé douloureux, parce que le ma vie chinoise, il y a beaucoup de douleurs accumulées de plusieurs générations. C'est peut-être cette volonté de l'effacer, en quelque sorte, de l'oublier. Et en même temps, je pense qu'en ce moment, il y a aussi un besoin très fort, de plus en plus fort, de retrouver mon univers chinois dans lequel j'ai grandi. C'est le contraire de l'effacement, n'est-ce pas ? Et c'est aussi la peur de l'effacement de cette vie dans laquelle je manquais de souffle, certainement. Donc le souffle, je suis allée chercher ailleurs. Donc c'est complètement paradoxal. Je ne sais pas si je veux effacer, j'écris sur l'effacement de ma vie chinoise ou c'est plutôt je m'accroche
oui.
à ma maison, à ma maison chinoise que je porte en moi,
oui, oui, oui,
pour qu'elle ne soit jamais démolie, ne soit jamais effacée.
Est-ce qu'on peut rappeler qu'en français, faire passer est équivoque, puisque par exemple, on fait passer une douleur. Ça veut dire à la fois qu'on la dissipe et en même temps, il y a l'idée de faire passer quelque chose. J'ai trouvé ça très, très intéressant, mais j'espère avoir l'occasion d'en reparler avec toi, cette question de l'écriture, que la parole analysante est une forme d'écriture. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça demanderait à être précisé. C'est-à-dire, c'est comme quand tu dis, on écrit sur une pierre, ça s'évapore, et pourtant, ce qu'on fait n'est pas sans trace. Parce que ce qui s'écrit et qui s'évapore, ça s'écrit ailleurs. C'est aussi l'idée, au fond, que ce qui s'écrit laisse une trace ailleurs. Donc, l'écriture en elle-même, c'est aussi un procédé qui marque quelque chose. Donc, dans la parole analysante, il y a aussi cette dimension que les paroles qu'on dit sur le divan, que ça laisse des traces, que ça transforme quelque chose.
C'est grâce à l'autre que j'ai envie de dire, c'est la langue française qui m'a appris cette chose. C'est-à-dire qu'on ne respire pas que son air. En tant qu'être humain, on respire aussi l'air de l'autre.